Éric Bataillon.
Bonjour. Les relations entre la France et le sultanat d'Oman sont très anciennes. Les premiers échanges datent du XVIe siècle et la capitale, Mascate, possède le plus ancien musée français de la région. Une exposition d'archives en témoignera la semaine prochaine à l'Institut du monde arabe à Paris. Il balafrait les fesses des femmes avec un cutter. Mythe ou réalité, le chalat de Tunis est le sujet principal d'un film sorti mercredi en France, sujet qui en dit long sur la réalité de la société tunisienne. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci de nous recevoir dans la représentation du sultanat d'Oman, ici à Paris. Une exposition documentaire omanaise sera visible à l'Institut du monde arabe à Paris, la semaine prochaine, du 7 au 10 avril. Les documents qui seront présentés sont issus des archives militaires et diplomatiques, à la fois de la France et du sultanat d'Oman, c'est bien cela ?
En fait, c'est vrai, les relations modernes entre la France et Oman, ça date à partir de fin du 15e siècle. Mais aussi doit être fort dans le 16e, 17e et 18e siècle parce que les maritimes omanaises a été fort dans les océans indiens, mais aussi dans quelques parties d'Afrique. En même temps, la France aussi était forte à cette époque là-bas. Donc les partenariats avec la France, c'était basé sur le commerce, sur le système de navigation, mais aussi sur les cultures, qui sont les cultures des échanges positifs dans cette partie du monde.
Parmi les documents qui seront présentés lors de l'exposition, il y a une lettre du général Bonaparte qui, à l'époque, n'était pas encore Napoléon.
Et c'est vrai, il y aura dans cette exposition, ce sera ouvert pour tout le monde, et c'est gratuit, à partir du 7 jusqu'à le 10, beaucoup de documents anciennes omanais. Il devra aussi le trésor documentaire historique du sultanat d'Oman à travers les divers documents de valeur historique. Mais aussi le affichage de documents qui représentent la relation franco-omanaise, qui sont neufs aussi. Mais elle mettra aussi en lumière la nature de relations modernes avec la France. Donc l'exposition, elle expose aussi des pièces de monnaie omanaise qui datent du XVIIIe siècle.
Où en sont les relations diplomatiques et économiques entre la France et le sultanat aujourd'hui ?
Honnêtement, j'aimerais bien développer la relation sûrement économique parce que les positions d'Oman stratégiquement dans cette partie du monde, c'est très, très important. Aujourd'hui, en Oman, il y a une diversification d'économie assez forte. C'est bien. J'aime beaucoup les entreprises françaises jouer un rôle positif. Aujourd'hui, les relations commerciales, c'est pas assez fort. Mais je suis positive et à l'ambassade, nous travaillons tout le temps avec mes collègues ici à Paris pour améliorer plus, pour créer des partenariats forts, sûrement avec les PME françaises aussi. Et je pense au monde, avec l'infrastructure moderne, mais aussi avec l'infrastructure légale, qui est très forte dans la région, avec une culture de navigation très positive, pas seulement avec les pays asiatiques, mais en Afrique aussi. Donc j'aimerais bien vraiment travailler dans cette ligne et je suis sûr que les entreprises françaises sont aussi intéressées à développer beaucoup de choses pour améliorer notre relation économique.
La stabilité du sultanat d'Oman s'explique par une ancienneté, un pays qui est installé depuis vraiment très longtemps. En revanche, à vos portes, si je puis dire, il y a des pays beaucoup plus instables. Il y a notamment le Yémen. Craignez-vous une contagion de ce qui se passe au Yémen ?
Merci. L'Oman, c'est vraiment un pays unique dans ce monde. Il y a une histoire très riche, comme vous connaissez, mais aussi aujourd'hui nous sommes gâtés parce qu'on a un politique et un gouvernement très ouvert, mais aussi très respectueux des autres. Et c'est pour ça aujourd'hui, Son Majesté Sultan Qaboos, il a créé un pays avec un politique neutre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Oman, la diplomatie omanaise, est une diplomatie très positive et très constructive, mais aussi très pratique. Et c'est pour ça aujourd'hui nous avons une relation très ouverte, très bien équilibrée avec tout le monde, tous les pays dans la région.
Y compris avec l'Iran voisin.
En fait, c'est avec tout le monde, avec l'Iran, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Afrique, avec l'Israël, avec tout le monde. Parce que l'histoire roumaine est une histoire très riche, a été basée sur un pilier de culture, un pilier de coopération positive. Et comme vous connaissez très bien, on a joué beaucoup de rôles positifs dans la région. Et nous souhaitons tout le temps à consolider une région de développement positif et de coopération naturelle avec tout le monde.
Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup, en fait, pour cette chance et je vous souhaite tout le monde de paix, de succès et respect. Merci. Merci.
شلط النساء قد ارتكب في هذه الأيام القليلة الماضية ما لا يقل عن 3 عمليات جديدة.
Au début des années 2000, une histoire se propage dans Tunis. Un homme, sur une mobylette, roulerait à travers la ville, un rasoir à la main, et balafrerait les fesses des femmes en jean ou en robe. Bonjour Kauter Ben Ania.
Bonjour.
Vous vous êtes emparé de cette information plutôt insolite pour en faire un film, le Chalat de Tunis. Chalat voulant dire balafreur. Mais votre film est-il vraiment un film? Il ressemble plutôt à un documentaire, voire à un reportage télé.
Oui, c'est un film de fiction, mais qui emprunte dans sa stylistique les codes des documentaires d'investigation. On voit un réalisateur qui mène une enquête. Dans le Chalat de Tunis, c'est moi qui joue mon propre rôle. Donc je mène l'enquête à la recherche de ce chalat, donc ce balafreur. Personne ne savait qui il était, la police ne l'a pas incarcéré. Et donc je mène cette enquête pour trouver cette personne. Et à travers cette enquête, je compose un portrait géant de tous les chalats potentiels et possibles.
Et puis vous dressez aussi une sorte d'état des lieux de la société tunisienne. Et cet état des lieux est quand même assez curieux, notamment dans les rapports hommes-femmes.
Oui et non, parce que mon film n'est pas représentatif de la société tunisienne. Moi, mon film, il parle d'un criminel, il parle de quelque chose d'assez sordide. Donc, les marginaux dans les quartiers où la vie est assez dure. Donc, comment on devient machiste et comment on passe à l'acte de la violence, c'est ce qui m'intéressait essentiellement dans ce film.
Mais cette histoire est plausible, mais est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? C'est toute l'interrogation. Vous ne nous donnez aucune certitude en la matière.
Alors, cette histoire, elle est à la fois vraie et fausse. C'est assez curieux parce que la même histoire, elle a eu lieu en fin des années 80 en Tunisie. Ensuite, début 2003, elle a eu lieu en Égypte aussi. Elle a eu lieu au Maroc. Et c'est toujours le même procédé. Et au fait, personne ne sait qui c'est cette personne ou c'est plusieurs personnes. Donc, c'est le genre de légende urbaine qui était imitée où on ne sait pas si le premier qui a fait l'acte a inspiré d'autres. Donc, la part de la fiction et de l'imagination dans l'histoire à la base est grande. Et moi, quand je me suis posé la question cinématographique, comment traiter la rumeur au cinéma? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur? C'est quelque chose de plausible, on peut le croire. Mais à un certain moment, on a des doutes, on dit c'est pas possible. Et donc, la forme que j'ai utilisée en revenant à votre première question, c'est cette forme-là. C'est-à-dire quelque chose de plausible, on est dans le domaine du possible, ça aurait pu exister. Donc, c'est tourné à la manière d'un documentaire, mais c'est totalement écrit et c'est de la fiction.
Toutes les scènes sont tournées, en fait.
Oui, sont écrites et sont jouées. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent mockumentary. C'est une expression pour dire moquer le documentaire ou imiter, singer le documentaire. Et ça correspondrait en français à documenteur. J'aime bien l'expression parce qu'il y a documentaire, il y a monteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on sort le film le 1er avril. C'est pas une date qu'on a choisie comme ça gratuitement.
شو انسبيري من تونس وريق الحوم معناتها وفي خاطر ولاد الحوم وحدهم ساك من عند مروان خوكم مروان كلاش.
Alors dans le film vous évoquez deux choses, il y a ce jeu vidéo dans lequel quelqu'un joue le rôle finalement du balafreur et puis il y a aussi cet autre objet curieux qui est le virginomètre. Est-ce que j'imagine que ce sont des inventions, mais est-ce que ce serait plausible dans la société tunisienne d'aujourd'hui que ces deux éléments existent?
C'est plausible. Par exemple, le gigimo, c'est-à-dire la capsule pour prouver la virginité, ça existe. Et c'est ça qui m'a inspiré au fait le virginomètre. pour détecter la virginité. Donc, comme vous le dites, ça aurait pu. Donc, moi, j'ai travaillé sur le « ça aurait pu exister », ce possible-là. Et pour moi, c'était très intéressant de rendre le vraisemblable ou l'absurde, parce que dès le départ, j'ai compris qu'on était dans l'absurde, de rendre l'absurde plausible. Et c'était un beau défi de mise en scène pour moi en tant que réalisatrice de faire ça, de travailler avec des comédiens complètement amateurs qui n'ont jamais joué, d'adapter leur vie à mon scénario. Donc c'était une très belle aventure.
Alors quand on parle du jeu de vidéo, vous faites venir finalement un imam qui va dire que ce jeu vidéo est conforme à la loi islamique. Ça aussi c'est plausible, parce qu'on a quand même une vision d'un imam qui est quand même relativement rétrograde.
Tout est possible, un imam ça pourrait être quelqu'un de très rétrograde. Et en fait cette idée là, d'ailleurs à un certain moment il dit les femmes c'est le lien avec le diable, c'est le... Et il convoque en fait cette ancienne idée monothéiste de notre chute du paradis à cause d'Ève qui était tentée par le fruit interdit. Et donc c'est cette idée qui est relayée, la femme aguicheuse, la femme tentatrice, qui est relayée par cet imam là.
Qu'est-ce que cette histoire, vraie ou fausse d'ailleurs, nous raconte de la société tunisienne d'aujourd'hui ?
C'est une histoire, en fait, qui... Alors, c'est un film sur un fait divers qui a eu lieu sous la dictature, mais les événements du film, l'enquête, se passent aujourd'hui après la Révolution. Et du coup, c'est un film qui teste le changement, parce que qui dit Révolution dit changement. J'essaie, dans ce film, de voir qu'est-ce qui résiste au changement, qu'est-ce qui est archaïque, qui va prendre beaucoup de temps. Donc, il y a un certain nombre de mentalités, de choses sur lesquelles on n'a jamais débattu, puisqu'on était sous la dictature, qui sont sur la table maintenant. Et déjà, le fait de pouvoir en débattre, que je puisse moi en faire un film ou que la société civile en Tunisie s'empare, c'est un énorme progrès.
C'est-à-dire que sur le plan des rapports hommes-femmes, il y a des choses qui avancent en Tunisie aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il y a des choses qui avancent, mais c'est-à-dire en Tunisie, on se vante toujours d'avoir les meilleures lois de la région par rapport à l'égalité hommes-femmes. En plus, avec la toute dernière constitution qui a été votée, c'est l'égalité totale, c'est écrit dans la constitution maintenant, donc c'est encore un acquis qui a été obtenu par une volonté collective, puisque la société civile était là pour appuyer cette égalité totale. C'était une revendication des femmes et des hommes tunisiennes. Donc oui, les choses sont en train d'évoluer, oui.
Merci Kaoter Benania. Je rappelle que vous êtes réalisatrice du film Le Chala de Tunis, une comédie sortie en salle cette semaine.
Merci à vous.
Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Nous nous rendons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une des journaux arabes, Alexandre, le conflit au Yémen.
Oui, et selon la presse du Golfe, la coalition continue à marquer des points, même si la situation sur le terrain reste confuse, avec des retraites, mais aussi des avancées des milices houthis. Des milices que les journaux du Golfe accusent de bombarder des quartiers résidentiels dans la ville d'Aden, alors que les houthis, surtout par le biais des médias sociaux, accusent la coalition de bombarder les civils au cours des raids aériens. Les journaux du Golfe affirment aussi que les combats de rue à Aden sont conduits par des militaires et des gardiens de la révolution iranienne. Et du côté de la presse Kerot, on indique que la marine égyptienne a pris le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, un détroit stratégique qui contrôle l'entrée sud de la mer Rouge et donc du canal de Suez.
Toutefois, Alexandre, des voix discordantes commencent à rompre le soutien unanime que la presse arabe accordait jusque-là à ces opérations militaires de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite.
Oui, le journal égyptien, par exemple, Al-Masr El-Youm, publie une interview de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, qui est accusé d'être associé aux Houthis, un président qui accuse l'Arabie Saoudite de régler ses comptes avec l'Iran par Yémen interposé. Il appelle aussi l'Égypte à jouer un rôle pour mettre fin à la guerre. L'Égypte, il faut le rappeler, fait partie de la coalition anti-Houthis conduite par l'Arabie. Des éditorialistes ont aussi critiqué la participation pakistanaise à la coalition, estimant que c'était un élargissement dangereux du conflit en faisant intervenir des partis non arabes. Le danger aussi de voir cette coalition tourner à la guerre de religion entre sunnites et chiites. Une guerre qui, selon plusieurs journaux, a déjà provoqué des tensions entre les deux communautés musulmanes dans le monde arabe.
Michel Paul, ce qui fait la une de la presse israélienne, c'est bien entendu l'accord sur le nucléaire iranien.
Oui, et les titres parlent d'eux-mêmes. Pourquoi commencer à faire confiance aux Iraniens, demande Israël Hayom. Le journal proche du parti du Premier ministre parle de colère à Jérusalem. L'accord, souligne-t-il, n'est pas lié à la réalité. Ton différent dans Yediot Aharonot, un éditorialiste du journal estime que l'entente obtenue entre les parties à l'issue de la rencontre de Lausanne est un moindre mal. Mais il faut bien reconnaître, Eric, que cette approche est très minoritaire dans la presse de ce week-end de fête en Israël. Deux autres chroniqueurs dans le même quotidien pensent que les grandes puissances ont tout simplement vendu Israël et que l'accord de Lausanne est une défaite honorable, mais défaite tout de même pour le monde occidental. Haaretz, journal libéral, estime que de toute façon pour les Israéliens, tout accord avec les ayatollahs est mauvais, par définition. L'accord en soi n'est qu'un point de détail. L'horloge du nucléaire iranien s'est immobilisée, titre un journal. Un commentateur affirme que comme à Munich en 1938, nous savons tous comment cela va se terminer.
Effet rare, Michel, un journaliste israélien est à Téhéran pour observer les réactions de la rue à la signature de cet accord.
Oui, les médias israéliens sont très friands de ce genre. Envoyer un journaliste dans un pays avec lequel Israël n'entretient pas de relations diplomatiques. Orly Azoulay, correspondante du journal, est à Téhéran et elle a assisté à la conclusion des discussions de Lausanne depuis la terrasse d'un café. Elle parle de la liesse des Iraniens suscitée par la levée annoncée des sanctions économiques. Ces sanctions nous ont tués, lui confirme un passant.
Alexandre, cet accord américano-iranien de Lausanne fait lui aussi la une des journaux arabes.
Oui, et des journaux qui parlent d'accords historiques entre les grandes puissances et l'Iran, mais des journaux qui se méfiaient aussi de cet accord. Alors les pays du Golfe craignent que la levée des sanctions contre l'Iran ne renforce ce qu'ils appellent les visées expansionnistes régionales de Téhéran avec un Occident qui fermera les yeux. Des journaux qui relèvent que le président américain Barack Obama parle de Golfe Persique alors que jusque-là l'Occident appelait Golfe tout court ce cours d'eau qu'il y a entre l'Iran et les pays du Golfe pour ne pas les mécontenter justement. Puisque eux appellent ce golfe « golfe arabique ». Alors certains éditorialistes se demandent aussi quelles seront les conséquences de cet accord sur le conflit au Yémen.
Autre sujet dans la presse, Michel, discrètement, les autorités israéliennes tentent de résoudre la question des réfugiés.
Oui, vaste opération d'expulsion de chercheurs d'asile en provenance de pays africains. Dans son éditorial, le quotidien Red souligne que cette opération est particulièrement malvenue au moment où l'on célèbre en Israël et dans le monde juif Pessah, qui marque, selon la tradition, le passage de l'esclavage à la liberté.
Enfin, Alexandre, les journaux du Caire accordent une large place au conflit qui oppose la grande mosquée d'Al-Azhar avec un islamologue réformateur.
Oui, Al-Azhar a en effet décidé de poursuivre en justice l'islamologue Islam Beheri, qui depuis près d'un an s'en prend, dans un programme télévisé diffusé sur une chaîne privée, s'en prend à ce qu'il appelle la vision faussée de l'islam. Pour Islam Beheri, il y a un vice de base dans l'islam enseigné aujourd'hui par les grandes institutions religieuses, les exégèses des anciens imams et les hadiths contestables, c'est-à-dire un hadith, c'est une citation du prophète Mahomet. Ces exégèses et ces hadiths ont pris le pas sur le Coran lui-même. Alors un phénomène qui, selon lui, est à l'origine de l'extrémisme musulman et qui ne concerne pas seulement les terroristes du groupe État islamique, mais aussi les institutions religieuses qui les soutiennent indirectement en leur fournissant une justification idéologique.
Islam Beheri est donc un de ces nouveaux motazalites dont nous avons déjà parlé dans une précédente émission. Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo des grands rabbins israéliens qui vendent, selon la tradition, tous les produits contenant de la levure à Hussein Jaber, un habitant de la localité d'Abou Ghosh, faisant de lui un des hommes les plus riches du pays, mais Eric, seulement pour 8 jours, jusqu'à la fin de la Pâque juive.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.